Haine des chaînes, salut à tous.
Donc on va faire une petite émission d'actualité. On va parler un peu d'un agenda de ce qui se passe à Marseille, des brèves du désordre. On finira par une petite présentation du journal L'Envolé.
Monsieur a les fourmis dans les jambes. Monsieur rêve de banque, de pillage. Monsieur pense que les poulets sont devenus une pure vision de l'esprit. De donner des perspectives, nuances.
C'est demain, mardi 26 février, qu'il y a une réunion au Tableau Noir. Pour ceux qui ne connaissent pas, le Tableau Noir, c'est un squat qui existe depuis bientôt 3-4 mois. C'est une ancienne école. Et dans ce squat, ils essayent un peu de... c'est un lieu d'activité, un lieu de lutte et aussi un lieu de réunion. Et demain, donc c'est à 17h30, c'est pour une réunion de préparation d'une bouffe de rue qui serait prévue le 9 mars. Et dans l'idée de cette bouffe de rue, c'était un peu d'occuper l'espace public, mais aussi de récolter des sous pour le collectif Sans Papiers ni Frontières. Et le collectif Sans Papiers ni Frontières, j'en reparlerai après. Et à 19h, il y a une réunion de préparation de la manifestation qui aura lieu le 16 mars contre la traque des pauvres, et qui est elle aussi organisée par le collectif Sans Papiers ni Frontières, qui est un peu un collectif qui veut lutter contre les politiques migratoires, l'enfermement et le monde qui va avec. Et donc voilà, ça fait deux réunions demain organisées par le collectif Sans Papiers ni Frontières. Et on va passer peut-être le petit jingle qui appelle à la manifestation du 16 mars.
Il y en a marre de baisser la tête. Alors descendons dans la rue.
Rendez-vous le 16 mars, porte d'Aix à 16h. Les murs tombent. Samedi 16 mars, rendez-vous 16h, porte d'Aix. 16 mars, manifestation contre la traque des pauvres.
Parqués dans des apparts pourris.
Expulsés de nos logements, de nos quartiers.
Exploités dans des boulots sous-payés.
Traqués par les flics et les caméras.
Enfermés dans des prisons, des centres de rétention.
Humiliés à la préf, à la CAF, à Pôle emploi.
Il y en a marre de baisser la tête.
Le quotidien est une lutte, et seul, je perds.
Alors descendons dans la rue, le 16 mars.
Pour nous battre contre la traque des pauvres.
Pour continuer à nous exploiter, à s'enrichir sur notre dos, en nous balançant des miettes de plus en plus maigres, le système capitaliste nous divise en nous montant les uns contre les autres.
Plus nos conditions de vie se précarisent, et plus on nous resserre la soupe du c'est la faute à, toujours plus pauvre que soi. Alors on trouve chacun son étrangère, son chômeur, son RSA, sa fraudeuse, son rhum.
Pourtant ce sont leurs intérêts qui sont en jeu, lorsqu'ils nous divisent et nous précarisent.
Dans le contexte de crise que nous vivons, les offensives contre les pauvres vont se multiplier.
À Marseille, plus belle la vie se rentabilise et se sécurise. Et ce sont les pauvres qui ramassent comme toujours.
La mairie, l'État et leurs amis du patronat organisent la restructuration de nos quartiers, en clair, leur destruction.
Ils construisent une métropole où les liens qui nous restent pour survivre par l'entraide et la débrouille sont passés au rouleau compresseur.
Ils nous parquent dans des ghettos de plus en plus loin et construisent des quartiers pour riches, des musées, des capitales européennes de la culture.
Environ les pauvres de Noailles, la Joliette, la Belle de Mai, les Crottes, la Busserine, Saint-Barthélemy.
Marseille devient la ville où on ne veut plus nous voir traîner.
Alors faire du bruit dans ces rues prend tout son sens.
Parce qu'être solidaire, c'est lutter contre les séparations.
C'est comprendre que nous avons les mêmes intérêts contre ce système.
C'est se battre contre le contrôle et la répression. C'est se battre contre le contrôle et la répression.
Rendez-vous le 16 mars, porte d'Aix à 16h.
Apportez vos casseroles et sortez vos pétards.
Les murs tombent.
Parce qu'il y en a marre.
Les murs tombent.
Et bim.
Et bim.
Parce qu'il y en a marre.
Parce qu'il y en a marre.
Parce qu'il y en a marre.
Parce qu'il y en a marre. Parce qu'il y en a marre.
Et bim.
Ouais, vous êtes toujours sur Anne des Chaînes 88.4 sur les ondes de Radio Galère. Et donc, en attendant le 16 mars, on poursuit l'agenda des rendez-vous qu'il y a un peu tout au long de la semaine. Et on passe à samedi, où il y a un rencard à la caserne. Donc la caserne, c'est aussi un squat qui existe depuis bientôt presque un an. Et le retour. Et la caserne, c'est situé en face de la caserne du MUI, et c'est au 1 rue Masséna. Et donc ce rendez-vous, ça sera une présentation du groupe Tankil, qui est un peu l'abréviation de tant qu'il y aura de l'argent, il n'y en aura jamais assez pour tout le monde, et du groupe Théorie Communiste. Voilà, c'est un peu deux collectifs, deux groupes de réflexion contre le système capitaliste, qui essayent un peu d'analyser la crise en cours, les luttes qui s'y passent, et qui pensent que la révolution aura lieu sans période de transition, pour abolir directement la valeur, les propriétés privées, le salariat, l'État et tout ce qui va avec. Voilà. Et on continue avec un concert samedi au Tableau Noir, et c'est encore en soutien au collectif Sans Papiers ni Frontières. Alors il y aura du rap avec l'Amiral, il y aura ça, il y aura un open mic et il y aura Obo Erectus. Voilà. Ah oui, et dimanche aussi, il y a un ciné-club au Molotov, donc qui est un bar associatif antifasciste. Ah, peut-être pas associatif, mais bon, bref. Un bar antifasciste, salle de concert. Et ils projettent un film qui s'appelle Enfermé vivant, qui est un film documentaire sur la prison. Et à la suite de ce film, il y aura un débat avec le journal L'Envolé, qui est un journal anticarcéral dont on parlera plus tard dans l'émission. Voilà pour l'agenda.
On peut enchaîner direct par l'actualité avec ce qu'on peut appeler une bonne nouvelle, puisque une trentaine de personnes ont été libérées du Canet. En effet, vendredi, le JLD a ordonné, une fois n'est pas coutume, la libération de 30 personnes retenues au CRA du Canet. Leurs avocats ont fait valoir un arrêt de la Cour de cassation daté du 13 février qui confirme le soi-disant droit, le droit des retenus à un accès aux ONG censées les aider dans leur démarche juridique. Ces co-gestionnaires des camps, tels France Terre d'Asile ou encore Forum Réfugiés, qui sont présents au CRA du Canet, servent surtout à faire le tri entre des dossiers qui sont jugés recevables et les mauvais dossiers. C'est une sorte d'immigration choisie de la dernière heure, en quelque sorte. Alors ce n'est pas parce qu'une fois de plus le ministère n'a pas respecté la procédure, ni parce qu'un droit maudit leur est concédé, que l'on se réjouit de leur libération, mais simplement parce qu'ils ne sont plus derrière ces sinistres murs, quelle qu'en soit la raison. Et l'on saisit l'occasion pour exprimer une solidarité sincère à tous ceux qui sont encore enfermés au Canet, une solidarité qui n'a rien à voir avec le soutien de ces charognards de la misère que sont les associations qui ont contracté avec le ministère.
Associations telles Forum Réfugiés, qui travaillent à l'intérieur du centre de rétention. Avec les médecins, ce sont les seules interventions civiles dans le centre. Leur fonction est soi-disant de suivre les dossiers juridiques des retenus et de les aider dans leurs recours, de veiller à ce que les conditions légales de rétention soient appliquées, de faire le lien avec les proches si les retenus le leur demandent. Bien loin d'aider les retenus, cette association, comme toutes celles qui travaillent dans les centres de rétention, sert juste de cause humanitaire à l'État. Mais Forum Réfugiés ne se contente pas seulement d'être un vautour de la machine à expulser et de se payer des salaires sur le dos des migrants enfermés. Forum Réfugiés est un acteur de cette machine à expulser, au même titre que la police, les entreprises qui participent aux expulsions, celles qui travaillent dans les centres ou qui les construisent, Bouygues, Sodexo, Accor, Air France, SNCF, SNCM, CTM. Cet été, au centre de rétention du Canet de Marseille, c'est justement cette association qui s'est particulièrement appliquée à saboter les démarches juridiques et administratives des retenus, des recours envoyés avec quelques minutes fatidique de retard, alors qu'ils étaient en mesure de fournir ces envois dans les mêmes temps. Des formulaires de demande d'asile fournis une fois sur deux, des dépôts de plaintes faits par les retenus qui ne sont pas enregistrés, des refus de communiquer aux proches certains renseignements, dont ceux concernant les dates d'expulsion. Vêtus d'un uniforme bleu, d'une blouse blanche ou d'une étiquette humanitaire, la répression sera toujours la répression. Ces agents serviront toujours les intérêts de l'État. Alors du coup, poursuivre, je vais parler de la révolte qui a eu lieu ce week-end au centre de rétention de Turin. Révolte à l'intérieur du centre de rétention de Turin ce week-end. Elle éclate ce vendredi à 21h lorsque certains retenus tentent de s'y évader en escaladant les hautes grilles du centre. Manque de bol, les flics leur tombent dessus avant qu'ils aient pu franchir le dernier mur. Sur la lancée, des retenus montent sur les toits et d'autres incendient les dortoirs de quelques sections. La réaction des flics est comme toujours très violente, avec usage massif de lacrymos qui rend l'air irrespirable. Très vite, un rassemblement de solidarité se forme à l'extérieur, réveillant tout le quartier. Celui-là même se fait charger à plusieurs reprises rue Montgenivreau, non loin du centre. De même, les CRS, eux aussi, sont visés à coups de bouteilles et gros pétards. La circulation du tram est bloquée. À l'intérieur, des retenus racontent que 4 personnes se sont fait taper et menotter, sûrement déjà prêtes à être arrêtées et transférées à la prison de la Valette. Un appel à se rassembler le samedi après-midi, donc le lendemain, est lancé pour soutenir les prisonniers. Celui-ci a donc lieu et se fait entendre avec du bruit, de la zig, des interventions en arabe et en italien, ainsi que des pierres lancées contre les lampadaires. Des balles de tennis contenant des messages de solidarité sont lancées jusque derrière les grilles du centre. La forte présence policière sur place n'a pas pu empêcher ce rassemblement à se transformer ensuite en manif. Manif qui a ainsi pu bloquer un moment la circulation. Arrive ensuite la nouvelle que les flics ont à nouveau arrêté un retenu de la section violette en l'accusant d'être monté sur le toit. Il voulait saluer les manifestants. Avec les 4 retenus arrêtés la veille, il est lui aussi transféré à la prison de la Valette. Dimanche, ce sont les retenus de la zone jeune du centre qui complètent la révolte commencée ces derniers jours en incendiant toute la section. S'ensuit l'intervention des flics avec des lances à eau qui ont seulement servi à faire cesser la fumée, les flammes ayant déjà brûlé tout ce qu'elles pouvaient brûler. Impossible de rester à l'intérieur, les 35 prisonniers de la zone jaune se sont retrouvés dans la cour sous la pluie. Toujours dimanche à 22h30, il reste seulement 2 chambres dans la section jaune et pour restaurer les pleines fonctions, comme se plaît à le dire la préfecture, une 20aine de retenus sont parqués dans la cantine transformée en dortoir. De nouveau, un rapide rassemblement s'est formé pour saluer les retenus. Hors les murs, on entendait très fort des cris provenant de toutes les sections. Liberté, liberté. Et je voulais juste, je trouve ça bien de rappeler c'est quoi un centre de rétention, je voulais lire un texte qui explique c'est quoi un centre de rétention. Un centre de rétention, ce n'est pas qu'un bâtiment sinistre au fond d'une forêt ou près d'un aéroport où l'on se trouverait enfermé parce que l'on n'a pas de chance. Un centre de rétention, c'est l'un des rouages d'une machine, du contrôle à l'enfermement, de la queue interminable à la préfecture, à la décision d'expulsion, de l'arrestation à l'expulsion. Un centre de rétention, ce n'est pas juste quelques flics et des barbelés, mais un ensemble de personnes et d'entreprises qui participent à cette machine à expulser. Un centre de rétention, c'est des patrons, des administrations, des banques qui balancent des sans-papiers aux flics. C'est des ingénieurs et des industriels qui mettent au point des outils de contrôle, passeports biométriques, machines qui détectent les faux papiers, des super-flics et des politiciens qui créent de multiples fichiers. Fichiers des demandeurs d'asile, fichiers des empreintes, fichiers des expulsés. Un centre de rétention, c'est des architectes et des constructeurs qui pensent et érigent les bâtiments et les clôtures imperméables. Et s'en mettent plein les poches. Un centre de rétention, c'est des associations qui servent de caution humanitaire, qui cogèrent l'enfermement et les expulsions. Un centre de rétention, c'est des médecins et des infirmières qui distribuent anxiolytiques et antidépresseurs à gogo pour annihiler toute volonté de révolte. Un centre de rétention, c'est des transporteurs qui expulsent à la chaîne et qui bien souvent ferment les yeux sur la violence des flics. Un centre de rétention, ce n'est pas quelque chose qui est là au hasard d'une loi injuste, mais c'est un des outils dont dispose le pouvoir pour gérer, contrôler et enfermer les personnes qu'il juge indésirables, dangereuses, réfractaires.
Ouais, on est toujours sur NDChaîne 88.4 Radio Galère. Un peu de musique.
Sure was keen when a Daffy Flapper was a campus queen. Bo-dee-o-do and the cats meow. Let's rock a Charleston right now. You be a killer, diller. You really have zip once you're hip to the flapper flip. Cause to that rock and
Charleston, you really can rip. Shake a hip to the flapper flip. They really had it made in the shade 35 years ago. Short chemises, rumble seats, and hidey, hidey, ho. You'll really love it. I'll give you a tip. Just get hip to the flapper flip. Flapper flip. Just shake a hip to the flapper flip. They really had it made in the shade 35 years ago. Short chemises, rumble seats, and hidey, hidey, ho. You really love it. I'll give you a tip. Just get hip to the flapper flip. So take a tip, come on, get hip, and baby, do the flapper flip. Charleston, rock-a, Charleston.
Et voilà, on va continuer les actualités. On continue les actualités avec une petite brève de Palestine. Voilà, ça se passe autour d'un autre type de prison. Cette fois, c'est pas un centre de rétention. C'est une prison israélienne. Voilà. Donc, vendredi 22 février, des affrontements ont éclaté entre l'armée israélienne et des manifestants palestiniens devant donc la prison d'Ofer. Cette prison peut normalement détenir 800 personnes. Elle enferme au moins 1100 Palestiniens. Plusieurs étaient alors en grève de la faim. Les affrontements ont fait une cinquantaine de blessés, dont 4 par balles réelles. Des heurts ont eu lieu dans d'autres villes de Palestine. Une vingtaine d'émeutiers au total ont été arrêtés. Samedi, un prisonnier palestinien est décédé alors qu'il était interrogé par les services secrets israéliens. Selon ces derniers, il aurait été victime d'un malaise. Ben voyons. Il avait été arrêté la semaine dernière par les autorités israéliennes qui l'accusaient d'avoir jeté des pierres à des policiers. Environ 3000 prisonniers palestiniens ont annoncé qu'ils allaient refuser leurs 3 repas ce dimanche.
Donc ouais, et on va continuer par un petit détour par la Grèce, donc où il y a eu une mine d'or qui a été, enfin le chantier d'une mine d'or qui a été saboté. Donc c'est dans une région du nord de la Grèce, ça s'est passé dans la nuit du 16 au 17 février. Il faut savoir que dans cette région, ça fait plus d'un an que des milliers de personnes s'opposent à ce projet d'exploitation du sous-sol et de destruction de tout l'écosystème de la région. Et du coup, qu'est-ce qui s'est passé dans la nuit du 16 au 17? Eh ben, il y a une cinquantaine de personnes qui sont rentrées sur le chantier et qui ont mis le feu à des conteneurs qui servent de bureaux, aussi à des véhicules, à des générateurs, des bulldozers, d'autres machines de chantier de l'entreprise. À ce moment-là, les gardes, n'écoutant que leur courage, se sont mis à courir et ont pris la fuite. Et donc, quand même, d'après la police, 2 gardes auraient été ligotés pendant que les 10 autres s'enfuyaient. Et du coup, la cinquantaine de personnes qui ont mis le feu sont reparties à pied en plaçant des troncs d'arbres pour ralentir l'arrivée de la police et des pompiers. Alors, suite à ça, il y a 33 personnes qui ont été arrêtées, mais qui ont été remises en liberté, sauf une, qui est un homme habitant la région et qui est assez connu pour son engagement contre les mines d'or. Donc voilà, donc encore un projet d'aménagement du territoire qui se heurte à l'opposition des habitants. Et du coup, j'en profite pour vous parler un peu de la ZAD, donc de Notre-Dame-des-Landes. Donc j'imagine que tout le monde sait que c'est un projet d'aéroport dans la région de Nantes et qui rencontre quand même une grosse opposition des gens du coin. Et du coup, au mois de mars va commencer une période un peu dure pour les habitants de la ZAD qui sont de plus en plus menacés d'expulsion. Et voilà, alors pour ceux qui auraient envie d'aller faire un petit tour en dehors de Marseille, je vais vous donner un petit agenda de ce qui va se passer au début mars sur la ZAD. Donc avec du 28 février au 3 mars, il va y avoir 4 jours qui sont organisés par un comité de Rennes. Donc au programme, surtout un chantier de préparation à un carnaval qui va avoir lieu le 3 mars et des projections. Et avec aussi le 2 mars, une grande opération de nettoyage de la ZAD, ça va être un gros travail, j'imagine. À partir de 10h, rendez-vous à la Châtaigne. Et à 17h, un rendez-vous pour préparer une carte sensible de la ZAD. Donc, en gros, une carte agrémentée de témoignages, de sensations, d'infos qui paraissent un peu pertinentes pour la défense de la zone. Donc du coup, j'en parlais, le dimanche 3 mars, il va y avoir un carnaval qui va se dérouler à partir de 10h sur les routes du futur aéroport de Notre-Dame-des-Landes. Donc je vous donne quelques extraits de l'appel. L'appel à participation à ce festival. Donc ils disent « L'idée est de réinvestir les routes de manière festive afin de montrer encore une fois notre détermination à protéger cet espace. Il s'agit aussi de rassembler pour une journée les différents acteurs de la lutte pour ne pas se laisser avoir par le « diviser pour mieux régner » qu'ils tentent de mettre en place avec leurs barrages policiers et leur presse mensongère. Enfin, on espère recréer une nouvelle vague de soutien et de solidarité avant le mois de mars, qui risque d'être houleux pour nous, habitants résistants en situation précaire. Donc voilà, dimanche 3 mars, rendez-vous à partir de 10h sur les routes du futur aéroport. Ensuite, alors du 27 février au 4 mars, il y a une semaine d'activité à la Châtaigne qui est proposée par un groupe non mixte, Meuf, Gwyn et Trans. Donc c'est un collectif qui s'est créé sur la ZAD depuis plusieurs mois. Donc au programme des réflexions autour du féminisme, évidemment, de la justice, des questionnements sur la lutte à la ZAD, des moments de jeu, des émissions de radio qui passeront sur les ondes de Radio Klaxon, etc. Donc il y aura des activités en mixité ou en non-mixité. Alors pour vous donner un peu une idée, des ateliers un peu pratiques de découpe de bois de chauffage, ateliers grimpe, ateliers d'auto-examen gynécologique. Un atelier Legal Team sur l'anonymat, garder le silence, le partage d'expériences en garde à vue. Donc c'est toujours intéressant un peu de parler de ça parce qu'on dit souvent qu'il faut garder le silence, mais c'est pas toujours hyper facile. Et du coup, en parler avec des gens qui ont déjà eu l'expérience de la garde à vue, ça peut un peu aider. Donc pas mal aussi de discussions pendant cette semaine d'activité. Donc un historique de la lutte sur la ZAD raconté par des femmes, un atelier autour de la pertinence de la non-mixité dans les luttes féministes et antipatriarcales, une discussion sur pourquoi être féministe, quelle nécessité et quel apport dans nos luttes, dans nos manières de nous organiser, de vivre, etc. Et une autre discussion sur comment faire face à des situations de violence ou d'agression quand on ne veut pas avoir affaire à la justice. Etc. Voilà, et ça va se terminer sur un atelier, donc sur 2 jours, de création d'un fanzine sur le thème « Qu'est-ce que vous souhaitez défendre ?» Donc j'imagine par rapport à la ZAD quand même. Et voilà, donc à côté de ça, des projections, un infokiosque, des émissions de radio, etc. etc. Voilà, et pour finir, un autre rendez-vous qui va avoir lieu, donc c'est le 9 et 10 mars, qui est organisé par le collectif anti-THT du Maine Cotentin. Donc, et je vais vous lire une partie du texte qu'ils ont écrit à cette occasion. Un refus, un non ou un stop adressé à un grand projet inutile. Une volonté de se réapproprier sa vie, de ne plus vivre selon les codes et les normes de cette société. Des cabanes construites dans les arbres. Une pluie battante qui tombe parfois sans s'arrêter pendant plusieurs jours. De la boue jusqu'aux genoux à n'en plus finir. Des bottes qu'on est content d'enlever à la fin de la journée et qui mettent des jours à sécher. Des nuits froides où l'on se couvre de multiples couvertures. Des frontales qui s'activent dans la nuit autour des machines affrétées par une grande entreprise. Des réveils difficiles pour aller bloquer les travaux d'un début de chantier ou des mairies pendant une enquête publique. Des rassemblements publics de soutien et des discussions interminables sur les bilans de la lutte et ses perspectives, sur la violence, sur les médias. Une existence qui apprend à faire avec une omniprésence gendarmesque dans nos espaces de vie. Une rage grandissante contre un système qui impose à coups de matraque, de lacrymos, de grenades, les intérêts capitalistes de grandes entreprises. Une colère face à leur violence, celle qui feint d'écouter, celle qui mutile, celle qui convoque et condamne. Une conviction, notre lutte a dépassé son cadre local. Une hypothèse, notre organisation horizontale peut nous mener jusqu'à la victoire. Une question, qu'est-ce que c'est la victoire? Où sommes-nous? À la ZAD de Notre-Dame-des-Landes? Oui, mais pas que.
Ce tableau peut paraître pour beaucoup être restreint à celui de la lutte contre l'aéroport de Notre-Dame-des-Landes, largement médiatisé et qui a touché de loin le plus de monde. Pour autant, sa description peut coller à de nombreuses luttes passées, présentes ou à venir. Il ne s'agira pas ici de faire un état des lieux de tous ces combats, mais plus de se concentrer sur les rapports de deux luttes bocagères, celle de Notre-Dame-des-Landes et celle contre la construction de la THT Cotentin mène. Aujourd'hui, nous luttons contre la même logique d'asservissement des territoires qui vise à rendre nos espaces attractifs, aménagés pour l'économie des marchandes et quadrillés pour le contrôle de l'ordre établi. Chaque zone, chaque espace, chaque personne doit avoir un rôle ou une fonction au service des métropoles. Dans un souci d'entretenir une façade démocratique, ces projets sont systématiquement imposés selon le même protocole. Débat public, enquête publique, déclaration d'utilité publique, mesures de compensation et de rachat, pression financière de corruption sous forme de subventions. D'un bout à l'autre du bocage, ce qu'ils cherchent, c'est d'abord acheter le silence, celui des mairies, des conseils départementaux, régionaux, mais aussi et surtout celui des individus, des associations et des riverains. Face à ces procédés, ce n'est ni le silence ni la résignation, mais bien la résistance qui a été notre premier instinct. Un refus adressé à ce système, à ce monde du progrès dans lequel on n'hésite pas à supprimer les aides sociales au profit de l'armement des forces de l'ordre. De là, notre position est devenue une lutte, un combat de tous les jours pour la réinvention perpétuelle de nos existences, bien en dehors de ces systèmes-là. Notre lutte s'est organisée en associations, collectifs ou assemblées horizontales. Manifestations, rassemblements, réunions d'information, recours juridiques, mais aussi grève de la faim, actions publiques d'interférence, blocages, barricades et sabotages sont devenus nos armes. Mais une partie du commun de nos luttes, c'est aussi la répression, celle exercée par l'État, qui, à coup de surveillance, de convocation, de condamnation, de matraques, de gaz et de grenades, a tenté de nous faire taire. Nous savons aujourd'hui ce qu'est la vie en zone occupée, en zone militarisée. Donc voilà. Du coup, pour parler de tout ça, il y aura une discussion le 9 mars, donc à La Châtaigne, toujours sur la ZAD, qui sera accompagnée d'un pique-nique et d'une projection d'un film qui s'appelle THT, remballe ton élec, et d'un concert. Et le dimanche, randonnée pique-nique sous les pylônes de la ZAD. Rendez-vous à 11h au Rosier. Donc voilà, si vous voulez aller vous promener à Notre-Dame-des-Landes, ben n'hésitez pas. En tout cas, il y a plein de choses qui s'y passent.
Et ZAD, c'est zone
à défendre. Enfin, ça dépend toujours ce qu'on en...
Voilà, zone d'aménagement différé selon les autorités.
Voilà. Et juste pour préciser que THT, c'est les lignes à haute tension.
Et donc, on termine ce petit agenda et ces brefs du désordre avec un petit morceau de musique. Et puis, on reviendra ensuite avec un texte sur le nucléaire.
And the chain.
We went to Rosarito, packed up our wetsuit, surfing the Pacific Ocean blue. Baked beans and chicken, sombreros on. The Mexican surf boat lies open in the sun. We took a small road to a lonely beach. Got stuck with the car in the sand. Surfed in the night time and then we went digging. God, I thank you for the four-wheel drive. Baked beans and chicken, sombreros on. The Mexican surfboard lies open in the sun.
les autorités japonaises rêvent d'une catastrophe réversible. Le gouvernement a engagé un immense programme de prétendue décontamination et a promis le retour d'une partie des 160 000 personnes qui ont quitté leur habitation pour fuir les dangers de la radioactivité. Dans 8 autres régions, non évacuées, mais aussi contaminées, ce sont les municipalités qui ont la charge des travaux, qui consistent à laver, frotter, couper les herbes, les arbustes, gratter la terre. Pour les zones évacuées, le gouvernement a lancé des appels d'offres, et ce sont les majors du BTP, pouvant mobiliser une large main-d'œuvre, qui ont été retenus. L'une d'entre elles avait la charge du génie civil lors de la construction des réacteurs de la centrale de Fukushima. Comme toujours, ce sont des ouvriers sous-payés par des sous-traitants qui font les sales travaux. Des tâches on ne peut plus exposer, mais bien dérisoires au vu de la radioactivité, qui ne se laisse ni effacer ni nettoyer, mais se déplace et se répand. Personne n'a été sanctionné suite à cette catastrophe. Les cadres dirigeants limogés de TEPCO, l'exploitant de la centrale accidentée, se sont recasés dans des filiales, et la compagnie espère toujours pouvoir continuer à exploiter son autre centrale nucléaire. On retire le permis de conduire à un automobiliste trop rapide, pas à un exploitant du nucléaire. TEPCO s'accroche à ses 7 réacteurs de sa centrale de Kashiwazaki-Kariwa, sur la mer du Japon, dans la province de Niigata. Même si 2 d'entre eux sont situés sur une faille sismique, qui a été requalifiée en faille active, suite aux révisions des critères de sûreté. Les autres, à eau bouillante, de la même technologie que ceux de Fukushima, nécessitent des investissements massifs et des années de travaux de remise aux normes durcies par la nouvelle autorité de sûreté. TEPCO n'a pas renoncé non plus à ses réacteurs non accidentés de Fukushima, même s'ils ont été noyés par de l'eau de mer corrosive lors du tsunami de mars 2011, et même si les populations n'en veulent plus. Des milliers de travailleurs y sont exposés à de fortes doses pour tenter de les remettre en état de marche. Pour les populations touchées par la catastrophe, la vie est toujours anormale. Les déplacés volontaires ne bénéficient de quasiment aucune aide. On ne sait même pas combien ils sont. Nombre d'entre eux, et on les comprend, n'allant pas s'enregistrer sur leur nouveau lieu de vie. Pour ceux qui sont restés par force ou par choix, la survie dans les territoires contaminés est difficile. L'alimentation est toujours un sujet d'inquiétude. Les enfants ne jouent presque plus dehors. Pour les réfugiés, qui ont dû évacuer sur ordre des autorités, la vie est aussi bien difficile, dans un logement provisoire, souvent exigu. Comment refaire sa vie quand on ne sait pas combien de temps cette attente va durer? Quand on ne sait pas si l'on pourra rentrer un jour chez soi? Pour les agriculteurs, l'espoir de retrouver une ferme est très mince. La mer continue à être contaminée. Les infiltrations d'eau souterraine polluent le rivage et le lessivage des sols par les eaux de pluie entraîne une augmentation de la contamination des sédiments dans l'embouchure des fleuves. C'est particulièrement flagrant dans la baie de Tokyo, où la contamination croît de jour en jour. Le pire est peut-être à venir. TEPCO est contrainte d'injecter d'énormes quantités d'eau pour refroidir les combustibles fondus des réacteurs 1 à 3 de la centrale de Fukushima Daiichi. Cette eau se contamine, s'infiltre dans les sous-sols des bâtiments réacteurs et menace de déborder dans la mer. TEPCO la pompe donc continuellement, fait semblant de la décontaminer et la réinjecte. Mais de l'eau souterraine s'infiltre aussi, se contamine et augmente les stocks. La compagnie ne sait plus où mettre les cuves pleines d'eau contaminée sur son site. Elle n'a d'autre perspective que de la rejeter en mer, à plus ou moins longue échéance, après une décontamination plus poussée, promet-elle, mais toujours partielle. La station de traitement, prévue pour septembre 2012, ne fonctionne toujours pas. C'est normal. Quant aux habitants évacués, ils n'en peuvent plus. Quelle sera leur vie quand les indemnités s'arrêteront? Quel sera leur état de santé à long terme? Il y a déjà, officiellement, 3 cas de cancer de la thyroïde avérés chez les enfants de Fukushima, qui ont déjà subi une intervention chirurgicale. 7 autres cas suspects sont en cours d'analyse complémentaire. On pourrait, sans ironie, se demander si les médecins vont oser tester sur eux aussi la nouvelle technologie d'Arevamed, de traitement du cancer par radio-immunothérapie, avec injonction de plomb-212, un isotope radioactif issu du retraitement des déchets des centrales. Le nombre de personnes atteintes ne va aller qu'en s'empirant, le pic du nombre de cas étant apparu 4 à 5 ans après les rejets massifs à Tchernobyl. Et l'on sait que la radioactivité modifie durablement le génome pour des générations. Combien de contaminés au Kazakhstan, en Biélorussie, en Ukraine, en Polynésie, au Niger et en France, près des anciens sites miniers ou près de l'usine de retraitement de La Hague? Combien seront-ils au Japon? Pour eux, comme pour beaucoup, aucun retour à la normale n'est possible. La vie en terre contaminée change du tout au tout. Le monde qui est là devient souvent soudain hostile. Chaque brin d'herbe, chaque molécule d'eau, chaque aliment contiennent l'ombre d'une possible contamination ou irradiation. Et c'est tout le rapport innocent et direct au monde qui s'écroule. Tout doit passer au crible du compteur GGR et de la spectrométrie gamma. Tout devient mesure et outil de contrôle. Le simple Kidam, en bon citoyen modèle, devient son propre contrôleur, son propre prescripteur. Et, oh comme c'est pratique pour les assassins, l'unique responsable de sa contamination, et donc de sa mort programmée. Il n'y a pas d'après Fukushima. Il n'y a pas d'après Fukushima parce que rien n'est plus maîtrisable. Ni les réactions en cours dans les bâtiments dévastés, ni la dissémination des éléments radioactifs. Encore moins les effets sanitaires et sociaux du désastre. La semaine dernière, en bon VRP, Hollande est allé en Inde vendre des centrales pour le compte d'Areva, qui s'apprête à construire la plus grosse centrale du monde à Jaitapur, et ce, contre l'avis des populations, qui s'y opposent ardemment et refuse de céder les terres où le projet est prévu. Des terres qui sont d'ailleurs, une fois de plus, en pleine zone sismique. Samedi, des fuites ont été détectées sur au moins 6 citernes de stockage souterraines, contenant des déchets nucléaires, dans l'état de Washington, à 300 km de Seattle. Le site nucléaire de Hanford avait été à l'origine utilisé pour produire le plutonium, utilisé dans les deux bombes nucléaires, larguées sur le Japon en 1945. Par la suite, la production nucléaire du site avait été augmentée durant la guerre froide, le dernier réacteur a été fermé en 87, et le site est censé être nettoyé depuis 1989. La production d'armes nucléaires a laissé des déchets solides et liquides qui contaminent l'environnement local, notamment la rivière Columbia. Le groupe Areva, encore lui, associé à la gestion du site depuis 2008, parle de 170 cuves contenant 200 000 mètres cubes de déchets chimiques et radioactifs. Le chantier de soleil en boîte, le réacteur de fusion nucléaire ITER à Cadarache, s'apprête quant à lui à recevoir des convois de 800 tonnes pour la suite des travaux. Les touristes qui n'en auront pas eu assez avec les chantiers du capital de Marseille 2013 peuvent d'ailleurs déjà visiter le site de ce projet de la démesure. Alors, pendant que les enfants de Fukushima sont privés de jeux dans la neige, d'autres, eux, veulent jouer à faire fondre la matière et triture du tritium, bientôt tranquillement installé sur la faille sismique de Provence, qui remonte jusqu'au site nucléaire de Marcoule et de Tricastin. Rien de mieux que la peur, en l'occurrence celle d'une énième catastrophe, pour maintenir les populations dans la soumission. L'État se présente comme seul garant de la sécurité des territoires et de la protection de ses administrés. Tout en ayant l'exclusivité de la prise de risque en matière nucléaire, les gestionnaires nous habituent à la menace et cherchent à fédérer tout le monde derrière les injonctions des experts. Au nom du principe de leur réalité, les nucléocrates considèrent que la population peut tout à fait s'adapter à des accidents répétés de centrales. Il s'agit, à chaque nouvelle catastrophe, de tester les dernières mesures de contrôle et de faire en sorte de minimiser les pertes économiques, voire d'engendrer des profits. La gestion de la situation de crise, association flic, militaire, scientifique et humanitaire dans un même élan, n'a de but que le maintien de l'ordre et le retour le plus rapide possible à la normale. Au pays du soleil levant, comme ici, où l'on fabrique un soleil en boîte, espérons que la résignation ne contamine pas durablement les esprits, aussi efficacement que la radioactivité contamine les sols, les eaux et les êtres vivants. À nous d'imaginer comment liquider ce monde mortifère et d'y œuvrer pour de bon. We'll be right back.
sang dans mes larmes et j'arrête pas de chialer. Faut que j'évacue comme une diarrhée. Je sais pas si tu comprends que je me soulage. Fous de rage, j'ai des pages pleines d'insultes. Lâche la bête et elle fait un carnage. Réservé aux adultes, je suis un moteur, poussé à la rupture. Avec tellement de chevaux sous le capot pour pas qu'on me capture. Pur produit de ta banlieue, là où au carrefour de la vie j'aurais grillé les feux. Et au feu les pompiers quand les véhicules brûlent. Au pied des bâtiments, que des virgules autour de pitbulls. Circule, si t'as rien à foutre dans le coin. Soit t'achètes, soit tu vends, soit tu payes ton joint. D'un côté c'est les bénéfs, de l'autre les tiges. Ou la tôle pour quelques piges. Dans ces villes dortoirs, cœur du litige. Où on est tiré du sommeil par la faim. Comment veux-tu qu'on ne pense pas qu'à l'oseille à la fin. Putain j'assiste au combat de coq qui troquent leur bec pour un prolique. Tous au chômage chronique, tous malades. Parce que par la racine la fleur pue. Alors on soigne à la médecine douce et à l'air pur.
Peux-tu entendre le silence de ma rue? Entendre le silence de ma rue. Peux-tu entendre le silence de ma rue? Peux-tu entendre le silence de ma rue?
Proche de la fin, j'ai bientôt noirci mes feuilles blanches. Et vu que le fruit se décompose, faut que je m'accroche à la branche, pas à ta blanche poudre. Tu serais content de voir mes cellules se parfumer à la soude. Ou mon cerveau dans un thé à coudre, tout pour me dissoudre. Putain de trottoir, jamais trop tard pour trouver de l'alcool dans ce dépotoir. Faut croire que le poison se plaît dans nos quartiers, vu que c'est le seul à pouvoir circuler sans papier. Et quand c'est pas derrière les barreaux, c'est des gosses à l'hosto. À police musclée correspond contrôle costaud. Hostile, parce que jamais tranquille, puisqu'ils nous veulent mort ou entièrement. Docile, un pour tous, tous pourris. C'est leur nouvelle devise. Donc t'étonne pas si personne te sourit. Incompatible avec tes lois, comme tes règlements. Comme ces putains de décrets que j'arrose excréments. Extrêmement dur dans mes textes, comme sur le pavé. S'ils savaient ce que je ferais si j'étais pété de thunes. Quand j'ai la plume gavée, faut surtout pas que tu me pousses. Avec cette rancune née sur le bitume, je les encule tous.
Peux-tu entendre le silence de ma rue? Peux-tu entendre le silence de ma rue? Le silence de ma rue. Peux-tu entendre le silence de ma rue? 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 Peux-tu entendre le silence de ma rue?
Ouais, je vous aime toujours sur ND Chaîne 88.4. Et on continue cette émission avec une présentation du dernier numéro du journal de l'Envolée.
Ouais, voilà, parce qu'on vous en avait. On avait commencé donc à vous en parler la semaine dernière. On était un peu pris de court par le temps, du coup, on s'était pas trop. Arrêté dessus, et du coup on voulait vous revenir, hein, enfin revenir là-dessus un peu pour faire aussi un petit blabla sur ce qui se passe dans les tôles, parce que du coup on vous en parlera après, mais il y a toute une espèce de pataquès qui est en train de se faire en ce moment sur les peines alternatives, et en tout cas on n'en pense pas moins quoi. Alors l'Envolée, on va plutôt le présenter, hein, parce que on le présente un peu tout le temps quand même. Pour ceux qui ne savent pas, vite fait, voilà, journal anticarcéral qui est assez critique donc, de la prison, mais de la prison dans ce monde, donc qui ne fait pas uniquement une critique de la prison sans prendre en compte le monde dans lequel il est. Et qui sort assez régulièrement et qui fait aussi passer des courriers de l'extérieur vers l'intérieur, de l'intérieur vers l'extérieur, voire de l'intérieur à l'intérieur, et qui aujourd'hui est un des principaux outils qui permet en tout cas aux détenus de communiquer, de savoir ce qui se passe d'une tôle à une autre. Voilà, et du coup, bah, je vais commencer par l'édito que je vais vous lire. Dernier scandale en date, la vétusté de la prison des Baumettes. Partout, on a pu voir des images de cellules délabrées, de sanitaires hors d'usage, des tas d'immondices, de rats, de douches dégueulasses. Voilà le scoop. Taubira elle-même a convenu publiquement qu'on faisait semblant de découvrir une réalité connue de tous. Un collectif d'avocats marseillais a réclamé la libération des prisonniers des Baumettes. Le tribunal administratif a ordonné une opération de dératisation. Comme d'hab, ils nous la font à l'envers. La politique pénale entretient la surpopulation des maisons d'arrêt. Ils construisent toujours plus de nouvelles cellules. La dernière tranche du plan des 13 200 places de 2002, à peine achevée, la garde des Sceaux signe déjà un nouveau partenariat public-privé, donc un PPP, avec la société Spi Batignolles pour les futures prisons de Valence, Riom et Beauvais.
C'est à la lumière de ces faits qu'il faut relire les grandes envolées lyriques de la ministre de la Justice contre le tout carcéral et les partenariats avec le privé. Ce mode de fonctionnement, de financement, n'est pas acceptable, déclarait-elle dans Les Échos en juin 2012. Toujours des mots et rien que des mots. Face à Laurent Jacquat, ancien prisonnier longue peine qu'il avait apostrophé sur la situation des longues peines et des prisonniers malades, « Il y a les mots et il y a la réalité », elle avait répondu « L'enfermement est une détresse, je crois qu'on peut en faire une perspective. » La gauche a toujours tenu à, entre guillemets, donner du sens à la peine. Les prisonniers peuvent en témoigner. Taubira s'inscrit dans la lignée des Badinter et compagnie qui ont su faire accepter l'existence de la généralisation des quartiers haute sécurité, donc les QHS, par l'opinion, en les renommant quartiers d'isolement et qui ont remplacé la peine de mort par l'enfermement jusqu'à la mort. Ce sont des prestidigitateurs qui jonglent avec les mots, changent le nom pour garder la chose. Cette ministre dit se préoccuper des conditions de détention et du sort des prisonniers. Mais alors, comment expliquer qu'elle n'ait pas répondu aux pétitions et plateformes de revendication des prisonniers de Roanne, Annelin, Argentan, Ducos, dont nous nous sommes fait l'écho au numéro précédent? Pour celles et ceux qui auraient encore quelques illusions sur ce gouvernement, rappelons-leur ces revendications et leurs traitements. Aménagement de peine, nada. Demandons entre autres à Mounir ce qu'il pense de la révocation de sa conditionnelle, ou bien à Kaoutar de ses refus de permission, ou encore à Philippe El-Chenaoui du maintien de sa période de sûreté. Quant à l'abolition du mitard et des QI, donc des quartiers d'isolement, Laurent Orsini devrait sans doute remercier le pouvoir socialiste pour les longues périodes de solitude qui lui ont été accordées. Et l'ensemble des prisonniers devraient aussi se réjouir des régimes différenciés dans les centres de détention et du retour du régime porte fermée. Quant au parloir, tout est à la sécurité et on se dirige partout vers le régime strict des maisons d'arrêt. Et les cantines? Les prisonniers de Réau, Annelin et Nantes sont sûrement très heureux d'être acquittés par la société Thémis, filiale de Bouygues. Le travail? L'idée d'un salaire au moins aligné sur les misérables paies de l'extérieur n'est pas prête de sortir des oubliettes. Les locataires, entre guillemets, des nouvelles prisons regrettent leurs anciennes maisons d'arrêt vétustes. Ils dénoncent le développement massif du sécuritaire et de l'isolement, même si les cellules sont toutes neuves et équipées de douches individuelles. Ceux qui sont revenus de Cayenne après la fermeture du bagne et ont fini leur peine dans les prisons de la métropole se plaignaient déjà régulièrement de leurs nouvelles conditions de détention et regrettaient la Guyane. Comme disait feu Jacques Mesrine, une cage dorée reste toujours une cage. C'est à l'aune de cette évidence que se mesure le fossé entre l'intérieur et l'extérieur. Quand le pouvoir s'occupe des conditions de détention, c'est pour sophistiquer l'enfermement. Quand les prisonniers dénoncent leurs conditions de détention, c'est pour arracher un peu de liberté. Plus on améliore les conditions de détention, plus on enferme de gens. Le problème, ce n'est pas les conditions de détention, c'est la détention elle-même. Poser le problème de la détention, de l'enfermement, c'est poser la question de son existence et de son utilité sociale. À quoi sert-il? À qui? La prison ne peut se comprendre hors de la société qui l'engendre. On ne peut pas comprendre le procès de Philippe, qui a pris 20 ans pour 20 000 euros, sans avoir en tête le rôle de l'argent dans notre société. On ne peut pas comprendre ce qui se passe à Annelin si on ne comprend pas que dedans comme dehors, une des priorités de ce système est la gestion de ceux qu'il traite comme des déchets. On ne peut pas comprendre la mort de Jordana et Papy sans passer à la place assignée aux prisonniers et aux pauvres en général dans la hiérarchie sociale. Voilà, donc c'était l'édito donc, qui parle un peu du programme, de ce qu'on retrouve dans ce numéro. Et alors du coup, on invite tout le monde à se le procurer, à le lire. On répète aussi encore une fois que c'est gratuit pour les détenus et les familles de détenus, donc il faut écrire à l'envolée. Donc c'est au 43 rue de Stalingrad, à 93 100 Montreuil. Vous pouvez aussi le demander à la radio.
Vas-y. Et une petite précision, voilà, on parlait de la société SPIE Batignolles, qui est donc chargée de la construction des nouvelles prisons à Rayon, Beauvais, etc. Et donc c'est une filiale de Vinci, hein, Vinci qu'on retrouve évidemment sur le chantier de l'aéroport de Notre-Dame-des-Landes, mais aussi sur le chantier de l'ITER à Cadarache, dont on a parlé.
Ouais, on a toujours les mêmes qui reviennent, voilà, un peu au centre, Vinci, et ça, oui, montre un peu une fois de plus que s'attaquer à la prison, il faut aussi s'attaquer au monde qui la produit, quoi. Et voilà, et donc dans ce numéro, voilà, il y a aussi donc des nouvelles de Roanne. On a beaucoup parlé des luttes qui sont passées à Roanne depuis cet été. Et là, en l'occurrence, il y a un détenu qui est sorti il y a quelques mois, donc qui a fait une interview donc, dans ce numéro. Il y a des nouvelles donc, de ce qui se passe, donc tu vas nous parler dans les minutes qui suivent. Donc dans tous ces QHS, là, justement, quartier d'isolement, ces nouvelles prisons ultra-modernes, soi-disant aux normes d'une démocratie bien aseptisée et propre. On verra qu'il en est bien autre chose, quoi. Et voilà, des nouvelles d'autres prisonniers, comme Kaouta, dont on aura un montage donc, à la fin de l'émission. Et voilà, donc on vous le répète, cet outil est assez important. Vous pouvez le demander si vous êtes à l'intérieur, et vous pouvez aussi écrire vos courriers, leur écrire si vous avez envie, en tout cas, pour voilà, passer ce qui se passe, faire passer ce qui se passe à l'intérieur des murs. Voilà, c'était la petite présentation.
Voilà, et du coup, donc dans ce numéro de l'Envolée, il y a eu quand même plusieurs courriers de prisonniers qui sont dans le centre pénitentiaire d'Annelin, qui est une des prisons dernier cri du programme de construction de 13 200 places supplémentaires annoncées en 2002. Donc ces prisons, c'est Annelin, Réau et Nantes. Elles sont présentées comme conformes aux règles pénitentiaires européennes. Elles sont associées du coup aux alternatives de détention, c'est-à-dire le bracelet électronique, la semi-liberté, les tiges, donc travaux d'intérêt généraux. Ces alternatives, en fait, c'est des peines supplémentaires qui étendent toujours plus le champ du contrôle et de la répression. Ces nouvelles prisons dites de troisième génération sont l'unique réponse du nouveau gouvernement et de ses affiliés aux critiques des instances officielles comme le contrôleur général, l'OIP et autres. Donc voir ce qui s'était passé au Baumettes à Marseille à la fin de l'année dernière, où le contrôleur général a fait un rapport, et les conséquences, les changements, pour l'instant, rien.
Bon, on verra après qu'en fait, ils vont s'en servir pour parler tout ce qui est de peine alternative sous un faux discours un peu humaniste ou ce qu'on veut, quoi.
Oui, mais ce genre de... Enfin, ça leur sert à eux, en tout cas, pour... Bon. Et du coup, sous l'argument d'apporter plus de lumière, d'hygiène, de citoyenneté et un sens des peines infligées aux prisonniers, elles sont surtout un moyen plus élaboré, plus étudié, plus technologique et plus propre pour infliger toujours plus de peines et pour justifier les expérimentations faites au quotidien sur le dos des prisonniers. Parce qu'il ne faut pas se leurrer, l'espace de leur réflexion et de leur perspective ne se limite qu'à celui de la punition et de l'enfermement. Donc dedans, le nombre de prisonniers continue toujours d'augmenter. Dehors, le chômage progresse toujours. Les conditions de travail, de logement, d'éducation continuent de se dégrader. Et les riches n'arrêtent pas de s'enrichir. Pour maintenir et faire fructifier leurs intérêts, ils bétonnent. Et de leur cerveau avide d'accumulation d'argent, poussent des projets exorbitants. Des aéroports utiles au seul développement du capital, des villes aménagées pour le seul bien du commerce, des prisons pour enfermer les indésirables, les réfractaires. Les Bouygues, les Vinci et d'autres s'en mettent plein les poches. En février 2008, Dati signait avec Bouygues et l'une de ses filiales, Thémis, dont on vient de vous parler, un contrat partenariat public-privé, pour concevoir, réaliser, financer, exploiter 300 pénitentiaires, donc Annelin, Réau et Nantes, Carquefou. Donc Louis va louer pendant 27 ans chacun de ces centres à l'État pour un loyer annuel de 12 millions d'euros. Ce loyer comprend le remboursement de la construction de chaque prison, 70 millions, le service aux occupants et le service à l'immeuble. Le service à l'immeuble, c'est la maintenance des bâtiments, la propreté, l'entretien des espaces verts, la gestion des décès, la fourniture de l'énergie. Ah. Le service aux occupants, c'est la restauration des détenus, le personnel, la blanchisserie, la cantine, le travail, la formation professionnelle. Et Thémis s'occupe aussi du transport des détenus, de l'accueil des familles, l'entretien et le carburant des véhicules de l'administration pénitentiaire. Et Thémis a aussi reçu en charge la sécurité de l'établissement et a équipé ses centres pénitentiaires d'un mur de béton de 6 mètres de haut, ainsi que de détecteurs à infrarouge et à hyperfréquence, de filins anti-hélicoptères et de 400 caméras par prison. Tout ça.
Rien que ça. L'État a besoin d'enfermer, et ils ont besoin de faire du pognon donc, au privé, et du coup c'est ce qui se passe en ce moment. Où
c'est ça.
Ils font faire le tout staff là au privé et...
Voilà, ils ont recours au secteur privé. Ça leur permet d'avoir une mise de fonds énorme et du coup de générer à moyen terme des profits tout aussi colossaux. L'enjeu pour les enfermeurs, c'est de marier le public et le privé dans un unique souci sécuritaire générateur de profits. Et le comble, c'est que les prisonniers contribuent eux-mêmes au financement de leur propre enfermement en versant à Thémis 13% de leur maigre salaire quand ils travaillent ou de leur mandat quand ils sont aidés. Donc quand on leur envoie un mandat, il y a 13% qui sont prélevés.
13%, ils leur vendent de la merde, il faut
c'est
plus
ça.
Cher qu'ailleurs.
Et donc les détenus, forcément, se plaignent du nombre de caméras, des barbelés. Ils ont rajouté en plus des grilles aux fenêtres, des grillages afin d'éviter tout échange de différents, enfin des matériels entre les détenus. Tout est plus cher dans ces prisons-là, que ce soit pour la cantine ou autre. On peut noter problème de chaude, si les détenus se plaignent justement du fait qu'il n'y ait pas de chaude. L'administration pénitentiaire se débarrasse du problème en disant aux détenus de remplir un bon de réclamation et de l'envoyer à Témis. Ce qui apparemment les arrange, car si l'entreprise ne remplit pas le contrat, elle doit payer une amende qui remplira les poches de l'État. Mais en attendant, je pense qu'ils peuvent attendre longtemps pour l'eau chaude.
Et du coup, voilà, je voulais faire passer une musique avant, non ? On continue ? Et du coup, bah, on en vient donc à tout le grand discours qu'on entend actuellement par rapport donc à tous ces gens qui s'offusqueraient des conditions de détention, donc sur tout ce qui serait peine alternative. Donc peine alternative, alors ils ont souvent tendance à nous faire confondre avec l'expression contre la prison, souvent c'est ce qu'ils disent, faire une peine alternative pour lutter contre la prison, quoi. Seulement, bah, ça veut absolument pas dire qu'il y aurait moins d'enfermement. Donc on l'a dit, hein, ils construisent de plus en plus de places tous les jours. Des prisons haute sécurité, dernier cru, aseptisées, ultra-modernes, alors surtout ultra-modernes, mais du point de vue du contrôle, et pour casser tous les rapports sociaux qui existent quand même encore à l'intérieur, quoi, ce qu'on a aussi souvent tendance à pas dire, quoi. Mais ça va surtout leur permettre de mettre plus de personnes sous écrou. Alors sous écrou, ça ne veut pas obligatoirement dire enfermé, c'est-à-dire à la disposition de la justice, on pourrait dire présumé coupable. Parce que plus il y a de prisons, bah, plus elles se remplissent, et ce n'est pas parce que la délinquance augmente. Mais surtout, majoritairement, mais parce que le nombre de délits augmente. En 1810, par exemple, eh ben, le code pénal comptait 500 infractions. Aujourd'hui, le code pénal, il en compte plus de 15 000. Et ça, il suffit de se renseigner un petit peu pour aller sur Internet pour voir que toutes les lois et les décrets qui passent tous les jours, qui créent de plus en plus de délits, donc de plus en plus de personnes susceptibles de se faire incarcérer, quoi. Comme tous les nouveaux délits qu'on voit aujourd'hui, donc que ce soit le délit de la route bon, et compagnie, quoi. Et tout ça, bah, ça montre bien qu'il y a une histoire, donc la prison, l'enfermement, la sanction, la peine, bref, a une histoire qui est bien intimement liée, bah, à l'époque, qui est liée aux rapports sociaux, qui est liée aux rapports économiques. Et là, j'ai une petite citation, très intéressante. Donc citation de Georges Roucheux et Otto Kirchheimer, pour ceux que ça intéresse, qui écrivaient donc en 1929 dans un bouquin qui s'appelle « Peine et structure sociale » que les différents régimes punitifs ont un lien avec les systèmes économiques, ont produit des détenus pour garantir un volant d'esclaves, entre guillemets, civils, lorsque le recours à la guerre devient moins fréquent. Les châtiments corporels se développent sous la féodalité, lorsque les moyens de production sont peu développés. Et quand le corps, dans la plupart des cas, est le seul bien accessible, des galères font tourner le commerce. On recourt au travail obligatoire ou au bagne, lorsque se constitue un prolétariat qu'il faut pouvoir encore contraindre. Voilà, alors du coup, voilà, il y a donc cette histoire. Au Moyen-Âge, donc, on parlait plutôt de vengeance et de rétribution. Alors la rétribution, c'est un concept qui était basé sur la morale religieuse. Donc c'est l'Église, à ce moment-là, qui gérait la punition, le châtiment. Et alors, par exemple, il y avait comme exemple de punition, il faisait porter un cierge géant au condamné jusqu'à l'Église pour qu'il fasse repentance de ses actes. Et à côté de l'Église, il y avait le roi. Et le roi, lui, par contre, frappait fort et en public. Le procès, lui, était tenu secret, donc personne ne pouvait avoir accès au procès. Par contre, tout le monde verra ce qui se passe si on touche au bien du royaume, torture et pendaison, en public. Il fallait montrer que ça faisait mal. Et on s'attaquait au corps directement, et au corps en public. Voilà, donc un peu la seule chose qu'ils avaient à l'époque, le corps, quoi. Et à l'époque, il y avait 115 crimes, tous punis de mort. C'était pas beaucoup, mais il fallait pas tomber dedans, sinon c'était fini, quoi. Ça a duré donc jusqu'à la fin du XVIIIe siècle, donc fin 1780, début 1790. Le peuple en a marre, la foule gronde. Faut dire qu'il y avait une exécution qui se passait toutes les 60 heures. Ce qui est pas rien. Ce qui est pas rien, du tout. Bien sûr, la Révolution française. Et alors là, qu'est-ce qui se passe ? Bah, la production se transforme, les rapports sociaux, tout ça se transforme, vient de se créer, quoi. Et apparaît alors la notion d'amendement individuel et de réparation sociale. On ne s'attaque plus au corps, mais on s'attaque à l'esprit du condamné. Et là, on passe plus à une notion de punition que de vengeance. Quelle évolution sociale, la Révolution française. L'essor économique ensuite du XVIIIe siècle, donc industrialisation assez forcenée, et apparaît aussi donc la propriété sous toutes ses formes, la propriété économique, la propriété commerciale, la propriété privée, donc etc. Donc bien entendu, logiquement, et ben le vol multiplie ses facettes. Et pour ça, donc, il va falloir enfermer beaucoup. Par contre, on adoucit la punition, mais on la systématise. Et c'est Napoléon qui la systématisera, donc le temps des prisons un peu modernes comme on le connaît aujourd'hui, c'est-à-dire par l'incarcération, qui sera en fait fait aussi au vu de tous, parce que ça, ça change avec le temps, parce qu'à cette époque, toutes les prisons étaient construites dans les centres-villes, donc c'est un peu le cas de ce qu'on voit dans les vieilles villes, donc La Santé, La Talaudière et, bon, et compagnie, dans toute ce... Avignon aussi avant, toutes les villes de France, la prison était un peu au centre de la ville, quoi. Par contre, aujourd'hui, bah, fatalement, on construit hors des villes, ils ont aseptisé l'intérieur, donc ils mettent des douches, tout ça, mais ce qu'il leur faut surtout, eh ben, c'est se donner des moyens supplémentaires pour contrôler les populations de plus en plus précarisées, qu'il faudra mater au moindre écart. Alors l'alternative à l'enfermement, c'est une fois de plus qu'un seul leurre, car il n'est que le synonyme d'un contrôle accru sur nos vies. Et c'est ce qui va exactement se passer, et ce qui s'est passé en tout cas la semaine dernière dans une commission qui a été créée pour justement trouver le encore plus de solutions, de peines alternatives à l'enfermement. Et voilà, c'est... les prisons de ce monde ne seront jamais vides. C'est pourquoi nous ne pouvons vouloir que ça, destruction de ce monde.
Ouais, juste donc vite fait pour revenir sur cette réunion là qui s'appelait conférence de consensus.
Les démocrates, ils sont consensuels. Ouais, mais... c'est tous ensemble.
Et donc, je vous cite Le Monde, parce que le journaliste du Monde, il y croit à fond à cette conférence de consensus, et il dit, je cite, « Si le gouvernement mettait en œuvre la moitié des recommandations de la conférence de consensus, la face de la justice pénale en serait changée. » Eh ben, ouais, elle n'en est pas beaucoup changée, en vrai. Parce que, donc, bien sûr, donc, il raconte beaucoup qu'on a des éléments fiables pour remettre en cause l'efficacité de la peine de prison, etc., etc. Et, mais bon, c'est surtout et toujours pour créer une nouvelle peine. Donc celle-là, elle va s'appeler la peine de probation. Et elle va remplacer le sursis. Donc, en gros, au lieu d'avoir un sursis simple qui... peut être éventuellement accompagné d'un contrôle judiciaire, vous serez donc le sursis simple va complètement disparaître et les gens seront condamnés à la place à une peine de probation. Donc qui va consister à imposer aux condamnés des modes de, différents modes de réparation, mais donc médiation, réparation du préjudice
de la victime.
Oui. Travail d'intérêt général, suivi thérapeutique, stage de sensibilisation, recherche d'emploi, de logement, d'appart, accès aux soins, etc. Enfin bon, des choses qui sont déjà en réalité prononcées, enfin des condamnations qui sont déjà prononcées devant les tribunaux. Donc voilà, enfin bon, juste à voir, mais pour l'instant, tout ce qu'on y voit, c'est qu'il y aura en plus de la prison. Une nouvelle peine.
Et donc de plus en plus de gens qui seront, tous les ans, entreront sous le coup de la justice et qui donc seront sous écrou, enfermés ou pas. Et c'est surtout ça qu'il faut voir et surtout pas l'inverse qui essaierait de nous faire croire que ce serait une lutte contre la prison et l'enfermement.
Ouais,
et ce monde a besoin d'enfermer et il continuera à nous enfermer de plus en plus.
Et puis et ça leur coûtera un petit peu moins cher.
Ça leur coûtera moins cher, tu iras travailler gratuitement pour ta propre insertion. Il faudra dire merci.
Nick Latol.
Et du coup, on va continuer avec le montage de Caoutard.
Et il y a le petit montage de Caoutard, donc d'une lettre aussi, ouais, qu'elle a envoyée là dans le dernier numéro de l'envolée. Donc, il a été mis en montage et on va vous le passer parce que voilà.
Ouais, juste pour rappeler d'elle. Qu'elle avait obtenu une conditionnelle sous bracelet électronique au mois de mai. Et que 3 jours plus tard, elle a été de nouveau incarcérée puisque le parquet avait fait appel à cette libération et que le greffe du tribunal aurait oublié de transmettre cette nouvelle à la prison. Donc elle se retrouve incarcérée à la maison d'arrêt de Beauvais. Elle va y passer 5 mois dans de dures conditions où son moral va en prendre un sacré coup. Et aujourd'hui, elle a l'air de reprendre des forces malgré un énième refus de permission pour les fêtes de fin d'année. On va écouter sa lettre. Centre de détention pour femmes de Réau, le 31 octobre 2012. Je viens d'arriver à Réau. Et oui, j'ai été transférée. Encore. Je remercie tous ceux qui m'ont soutenue pour être transférée au plus vite dans un établissement longue peine. Ce qui me chagrine, c'est que j'avais posé une demande de permission pour les 9, 10, 11 novembre. Celle-ci est caduque, puisque je suis transférée. Par contre, c'était l'anniversaire de ma maman, et j'aurais bien voulu être avec elle ce jour-là, avant qu'elle ne reparte en Tunisie. Je vous rappelle que j'ai été libérée le 18 mai, et tout de suite renfermée le 22 mai.
qu'elle est arrivée en France le 2 juillet et que depuis, elle attend comme moi ma sortie par n'importe quel moyen légal, ce qui n'est toujours pas le cas. Il faut vous mettre à la place d'un ou d'une détenue transférée. C'est la galère, la misère. C'est le cas de le dire. Lors de ma libération conditionnelle, comme toute personne honnête, généreuse et empathique, j'avais donné et offert toutes mes affaires accumulées depuis mes 5 ans fermes. Radio, couette, radio réveil, CD, etc. Nous sommes téléguidés à droite, à gauche. Passage obligé par Fresnes. Chemin déboussolé, changement de couverture, de change, encore et toujours. Changement de cellule et d'établissement, sirène. Et le temps qui s'arrête d'un coup. Je suis fatiguée moralement et physiquement. Je dors par intermittence. Je suis obligée de demander du Lexomil et un Ivoman, sinon le sommeil ne vient pas naturellement. C'est fatigant. Je me suis réveillée en stressant, ne sachant plus pendant un laps de temps où j'avais atterri encore, après tous ces chamboulements. Aujourd'hui, je suis à Réau. Le 29 octobre 2012, quand je pars de Fresnes, je retrouve d'autres filles dans le bus Tarac de la Paix. On se retrouve, on se parle, on rigole, mais la tristesse est là. Je ne me retourne pas. Peur de regarder derrière moi, peur de revoir des visages encore, des murs connus, gravés dans ma mémoire, dans la rate de mon cœur. Ça va, ici on nous explique bien le fonctionnement de l'établissement. J'ai le règlement intérieur. Je vais le lire, mais je sais en gros ce qu'il y a dedans. En le lisant, je me rends compte que je n'ai pas appliqué le règlement à la lettre jusqu'à maintenant. Ils se ressemblent tous de toute façon. Je compte sortir de prison par la grande porte et libre enfin, sans bracelet au pied qui remplace une surveillante et qui est lourd dans les deux sens du terme. Je vais chercher un emploi et me reconstruire pour avoir un logement à moi. Si je n'avais pas eu la foi en quelque chose, je me serais suicidée en prison. C'est la rage qui m'a fait tenir et l'amour de mes proches à mon égard. Je n'ai plus envie de dormir, j'ai envie de me battre. Je vous laisse sur ces mots et vous tiens au courant de mon état d'esprit et de mon moral d'acier que j'espère garder pour toujours. Kautar.
Jamais s'arrêter ici, aller plus loin, nulle part, pourvu qu'on débarrasse l'horizon. Tu voudrais qu'on aille vite, n'importe où, qu'on aille vite, n'importe où. À quoi bon fuir à grande vitesse, accélérer le pas, doubler l'autre, l'écraser encore une fois, s'acquitter d'un droit de passage, aller plus loin, nulle part, et ne voir en contrebas que quelques fantômes, quelques mouroirs, quelques feuilles mortes, quelques traces. Prendre le train en marche, se planter de wagon, larguer ses bagages là-bas, ne plus jamais se regarder en face, tirer la corde à soi, longer le précipice, maintenir la trajectoire, ne plus se préoccuper des courbes et marcher seul, sauter à pieds joints dans le train du progrès, s'énerver au moindre retard, glisser d'une catastrophe à une autre rapidement, ne plus jamais s'arrêter ici et se débattre contre les souvenirs qui y subsistent. Il est des voies aménagées pour asseoir nos privilèges. Il en est d'autres où la souffrance est discrète mais souvent gênante. Il est des vols qui n'arrivent jamais mais dont tout le monde en paye le prix. Il est des parcours qui ne se soucient guère du chemin qu'ils empruntent. Tu voudrais qu'on aille vite n'importe où, ne plus jamais s'arrêter ici, aller plus loin, nulle part, pourvu qu'on débarrasse l'horizon. Tu voudrais qu'on aille vite n'importe où, qu'on aille vite n'importe où. Dis-moi quelle terre tu tiens, et s'il y a encore quel cadage à tirer de l'endroit où l'on vit. Parle-moi de ces obstacles qui habitent encore quelque part, ni nomades, ni connectés. Et pour qui sont ces serpents qui passent sur leur tête? Explique-moi
qui
prend ce train en marche.
Quand
leurs lignes droites réduisent les vues en paysage, je te dirai combien j'aime retard bouillant et fumigène. Je te dirai combien j'aime, je te dirai combien j'aime. Tes caisses sont loin de tout, et surtout de nos voix. Montre-moi où va cette grande vitesse et l'autre visage livide qui va avec. Décris-moi ces quatre pressés d'avaler du béton. Je tracerai des cartes de campagne qui savent se servir des détours. Détaille-moi les grilles tarifaires du transport en commun et les heures de départ des carcasses climatisées. Détaille-les-moi et sois précis. Que j'ouvre la porte en route sur des zones d'ombre à desservir. Que de pauvres airs sans billets amochent un peu ton sourire. Je voudrais qu'on aille vite n'importe où, ne plus jamais s'arrêter ici, aller plus loin, nulle part, pourvu qu'on débarrasse l'horizon. Tu voudrais qu'on aille vite n'importe où, qu'on aille vite n'importe où.
Il n'y a déjà plus de vie au-delà de leur clôture.
juste des terres décrétées inutiles, des cailloux et rien. Peu importe comme le monde tourne, pourvu qu'il ne s'arrête jamais.
Samedi 16 mars, rendez-vous 16h, porte d'Aix. Manifestation contre la traque des pauvres.
Exploités dans des boulots sous-payés.
Expulsés de nos logements, nos quartiers.
Traqués par les flics.
Humiliés à la préf, à la CAF, à Pôle emploi.
Enfermés dans des prisons, des centres de rétention.
Il y en a marre de baisser la tête.
Le quotidien est une lutte, et seul, je perds.
Alors, descendons dans la rue.
Pour nous battre contre la traque des pauvres.
Rendez-vous le 16 mars, porte d'Aix à 16h.
Des chaînes 88.4 sur les ondes de Radio Galère et on arrive à la fin de cette émission et juste on va vite faire rappeler tous les rendez-vous de la semaine. Donc demain à 17h30, une proposition de réunion pour organiser une bouffe de rue en soutien au collectif Sans Papiers ni Frontières. Après à 19h, une réunion de préparation de la manif dont vous venez d'entendre l'appel
mis contre la traque des pauvres le 16 mars à la porte d'Aix.
Voilà. Et samedi 2 mars à 17h30 à la caserne, donc c'est en face de la caserne du Muy, rue Masséna, et donc c'est une présentation du collectif Tankil, ce qui veut dire tant qu'il y aura de l'argent, et du groupe Théorie Communiste. Et on termine avec samedi le concert, toujours en soutien au collectif Sans Papiers ni Frontières, qui aura lieu à 20h. Au tableau noir,
rue Saint-Savournin.
Voilà, au 60-64 rue Saint-Savournin.
Avec l'Amiral, Sa, Open Mic et Obo Erectus. Et dimanche 3 mars à 16h, au Molotov, la projection du film Enfermé Vivant, qui est un film documentaire sur la prison, et suivi d'un débat du journal, avec le journal L'Envolé et le réalisateur de ce même film.
Ouais, voilà. Du coup, on rappelle juste le Molotov, c'est tout en haut de la rue d'Aubagne. Et puis, on espère voir de nombreuses personnes à ces rendez-vous. Voilà.
Ouais, juste pour rappeler, par rapport au rendez-vous de la ZAD, qu'il y a un site internet pour ceux qui voudraient avoir plus de précision. Et c'est zad.nadir.org. Et pour réécouter cette émission, vous pouvez le faire sur ndchaine.free.fr.
On pense aux révoltés de Turin, aux révoltés de toutes les prisons, on pense aux gens qui sont enfermés.
Et voilà. Et ouais, on se retrouve la semaine prochaine, à 20h, comme tous les lundis, NDCN,
20h. Radio Galère, 88.4.
À la semaine prochaine.
On a la haine.
Pure vision de l'esprit.
Je nourris des perspectives, nuances.